maître Richard Dupuis, grand maître de la Grande Loge de France, va vous présenter le vrai visage de la franc-maçonnerie.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis, c'est pour la seconde fois que je viens prendre la parole sur le même thème, avec le même titre de conférence, le vrai visage de la franc-maçonnerie, dans le cadre de ce cycle de conférences, des conférences de Paris. Je n'en suis pas absolument certain, mais il est possible, il est même vraisemblable, que certaines des personnes qui ont assisté à ma précédente causerie d'il y a un ou deux ans sont présentes dans cette salle. C'est pourquoi, par déférence pour elles, pour les remercier de leur fidélité et de leur assiduité, je m'efforcerai de présenter le sujet qui m'est imparti sous une forme nouvelle et un point de vue nouveau. Il est d'ailleurs absolument certain qu'un sujet aussi vaste que la franc-maçonnerie universelle et éternelle ne peut pas être traité en quelques minutes de causerie. C'est un sujet inépuisable et il faudrait même toute une série de conférences, et non point deux seulement, pour parvenir non point à l'épuiser, mais à le circonscrire et à en prendre possession d'une façon à peu près satisfaisante. On a beaucoup écrit cet an dernier sur notre ordre. La plupart des ouvrages qui ont été publiés sont fortement documentés, ils sont loyaux, ils sont sincères, et les erreurs qu'ils contiennent sont, j'en suis persuadé, absolument involontaires. Par contre, dans certaines presses, et certaines grandes presses qui ne visent qu'au tirage, qui ne visent qu'à la vente, en s'appuyant sur les procédés les plus outranciers, les plus démagogiques de la publication, s'attache pression à ses lecteurs qu'elle vient de violer je ne sais quel secret jalousement gardé par les francs-maçons et que tout palpitant, elle le livre à la curiosité des gens qui ont payé les quelques 25 centimes ou 50 centimes qui sont nécessaires à l'achat du journal. Je voudrais donc ce soir vous donner une idée générale et aussi juste que possible de ce qu'est notre ordre, et je suis donc obligé, en reprenant aussi rapidement que je le pourrais, l'exposé que j'ai produit précédemment sur les origines historiques et légendaires de la franc-maçonnerie, passer ensuite à une étude plus technique, plus rationnelle du problème, de façon que vous partiez avec des idées qui pourront vous servir de point de départ aux méditations et éventuellement aux recherches que vous pourrez être conduit d'entreprendre. On a dit et répété que la franc-maçonnerie était une société secrète, c'est absolument faux. C'est une société qui n'est pas publique. Si on appelle société secrète tout groupement humain dans lequel il ne suffit pas d'arriver, de remplir un bulletin d'adhésion et de payer une cotisation pour être admis et avoir rigoureusement les mêmes droits que ceux qui vous ont précédé, alors la franc-maçonnerie est une société secrète. Si on appelle société discrète les groupements d'hommes qui prétendent que les graves problèmes qui se posent de toute éternité à l'esprit humain ne peuvent pas être traités sur la place publique, qu'il est nécessaire de procéder avec une certaine sélection, un certain choix, qu'il est nécessaire que ces sujets ne soient abordés que dans une certaine ambiance propice à la méditation, à la réflexion et à l'échange de vues, alors on a peu ou prou le portrait de ce que sont les loges maçonniques. On a prétendu aussi, beaucoup de nos adversaires ont prétendu, que nous étions une organisation politique. Il suffit de remarquer que la franc-maçonnerie fleurit sous tous les régimes, en tout cas sous tous les régimes qui respectent les libertés individuelles, il suffit de remarquer que les obédiences maçonniques les plus puissantes du monde sont d'une part la Grande Loge Unie d'Angleterre qui compte entre l'Angleterre proprement dite et ses différents dominions quelques 1,5 million d'adhérents, et la franc-maçonnerie américaine qui à elle seule, avec les francs-maçons canadiens, totalise un chiffre de 4,5 million d'adhérents, les uns vivant fort bien sous la monarchie et les autres sous la République, on s'aperçoit qu'il est absolument fallacieux de prétendre que la franc-maçonnerie est une organisation politique, puisqu'elle s'accommode de tous les régimes, sauf des régimes totalitaires, quelle que soit leur étiquette, qu'ils se prétendent de gauche ou de droite. Il est de fait que la franc-maçonnerie a été interdite par Hitler, par Mussolini, qu'elle est à l'heure actuelle proscrite et interdite en Espagne, où les francs-maçons sont embastillés et encourent des peines de prison tournant autour de 20 années, qu'elle est interdite également en, non seulement en Russie soviétique, mais dans tous les États satellites de l'URSS, pour s'apercevoir que, qu'on le veuille ou non, et c'est là un fait de constatation matérielle, tous les régimes qui sont les ennemis de la liberté, qui se défient de la pensée libre, tous ces régimes-là prennent comme première précaution le soin d'interdire aux loges maçonniques de fonctionner librement sur le territoire placé sous leur administration. On a cru trouver dans notre ordre les traces d'une religion. Il est certain que nos rites et notre symbolisme sont empreints d'une certaine religiosité au sens étymologique et au sens pur du mot. On a ergoté à perte de vue pour savoir d'ailleurs quel était le sens du mot religion. On est allé faire appel à des notions linguistiques. On s'est demandé si ça venait du latin religare qui signifie relier les membres d'une même secte entre eux, ou bien rééligéré qui signifiait élire, choisir. Choisir quoi? Choisir une divinité, choisir un dieu. En tout cas, nous ne sommes pas une religion. Nous admettons chez nous des gens de toute confession. Des gens qui appartiennent aussi bien à la religion bouddhiste mahométane qu'à la religion, qu'aux multiples religions chrétiennes, aux multiples et très nombreuses sectes protestantes. Nous avons des catholiques et nous avons aussi des gens sans religion. Nous n'exigeons d'eux qu'une seule croyance dont je vous parle, la croyance en l'existence d'une puissance suprême que nous dénommons sous un vocable général, et vous verrez pourquoi, le grand architecte de l'univers. Nous laissons donc nos adeptes libres de pratiquer la religion de leur choix ou de n'en pratiquer aucune, si tel est le bon plaisir de leur conscience. L'essentiel pour nous est qu'ils adhèrent sans restriction ni réserve à notre croyance séculaire dans l'existence du grand architecte de l'univers. En vérité, ce que nous sommes un ordre initiatique traditionnel. En langage symbolique, ou si vous préférez en langage ésotérique, ce langage qui est fait pour être compris des initiés, ce langage qui parle par image beaucoup plus que par définition, ces trois mots sont synonymes. Tradition, initiation, libération. L'objectif de l'ordre maçonnique, l'objectif unique vers lequel il est tout entier tourné, de tout temps et en tout lieu, c'est la réalisation de l'individu. Non pas la réalisation d'une nation, d'une caste, d'une corporation, d'une confrérie, d'un groupe d'humains, quel qu'il soit, mais la réalisation de l'homme en tant qu'individu dans la plénitude de sa personnalité. La méthode que notre ordre utilise à travers le monde, en vue de réaliser cet objectif, je le répète, unique, et ceux qui vous diront autre chose sont des imposteurs ou des menteurs conscients ou inconscients, la méthode que notre ordre utilise, c'est le symbolisme, et un symbolisme particulier, parce que si nous sommes une société initiatique, nous n'avons pas la prétention d'être les héritiers de toutes les traditions initiatiques, Le symbolisme auquel nous faisons appel, c'est le symbolisme du travail des maçons opératifs dont nous sommes les héritiers directs et légitimes. Je vais donc m'expliquer aussi rapidement que je le pourrai sur cette période historique ou légendaire, car chez nous, et vous l'avez déjà entendu par la nature de mes propos préliminaires, l'histoire et la légende se mêlent intimement, mais nous avons, nous, cette supériorité qui consiste à reconnaître qu'effectivement, les faits que nous énonçons ne sont peut-être pas tous vérités historiques, qui sont peut-être simplement vérités légendaires, mais en tout cas vérités historiques ou vérités légendaires, l'histoire de la formation de notre ordre, concourant à la réalisation de son objectif initiatique, est faite. Elle a été conçue et elle s'est amalgamée au fil des ans en vue de la réalisation de cet objectif initiatique. Donc, histoire ou légende, nous, ordre initiatique traditionnel, rattaché à la tradition des constructeurs, nous nous réclamons de la plus vieille, de la plus haute et de la plus authentique tradition initiatique, celle qui commença avec Enoch, l'initié initiant, qui vécut avant le déluge et qui fut rappelé à lui par Dieu sans avoir souffert la mort. Dans cette époque très ancienne et légendaire, les hommes considéraient la géométrie comme la science des sciences, et c'est la raison pour laquelle je vais commencer par lever un des mystères, un des nombreux mystères qui soi-disant entourent la franc-maçonnerie. C'est la raison pour laquelle nous avons l'habitude de frapper de la lettre G un certain nombre de nos symboles, des symboles qui se trouvent dans la loge, ou des ornements symboliques que revêtent les francs-maçons. Cette lettre G se réfère à notre tradition séculaire qui veut que la géométrie ait un caractère saint et qu'elle ait en somme présidé à la création du cosmos. Si nous parcourons très rapidement les siècles de l'Antiquité connue, nous apercevons dans la haute antiquité égyptienne des prêtres gouvernant des constructeurs qui leur commandent de construire les fameuses pyramides dont à l'heure actuelle encore les égyptologues les plus savants ne sont point encore parvenus à tirer la substantifique moelle tous les jours. On découvre dans ces pyramides égyptiennes des messages occultes, des messages ésotériques que l'on déchiffre et on s'aperçoit avec stupéfaction au fur et à mesure que l'on progresse dans la recherche que ces messages correspondent à des découvertes que la science moderne vient à peine d'envisager, à peine d'entrevoir. Une époque mérite particulièrement que l'on s'y arrête parce que à travers cette longue et lente filière de la tradition initiatique, elle marque une étape, c'est l'époque hébraïque. C'est cette époque hébraïque dans laquelle nous allons rechercher la source vivante, la source actuelle de la franc-maçonnerie spéculative moderne. Et si vous voulez vous procurer sur l'essence de la tradition maçonnique, un document irréfutable. Allez donc dans votre bibliothèque quérir une vieille Bible, ouvrez-la au chapitre des rois et lisez. Vous y verrez que 930 ans avant la naissance du Christ, le roi Salomon, roi juste et bon, avait décidé de construire un temple à la gloire de l'Éternel, son Dieu. Et qu'il fit appel pour cela à la bonne volonté de son ami, le roi Hiram de Tyr, et qu'il lui demanda de vouloir bien mettre à sa disposition un architecte fameux pour sa façon de tracer les plans, et qui était également un maître dans l'art de fondre et de frapper les métaux. Il s'agissait d'Hiram Abi, dont vous trouverez le nom également au chapitre des rois dans l'Ancien Testament. Pourquoi l'appelait-on Hiram Abi? Parce que tout simplement, cela signifiait Hiram, le fils de la veuve. Dans certains romans de Léo Taxil et autres détracteurs de la franc-maçonnerie, on prétend que les francs-maçons s'appellent les fils de la veuve, adorent le noir, le deuil, et qu'ils se reconnaissent entre eux à des signes mystérieux, kabbalistiques, qui se réclament d'une ambiance extrêmement noire, extrêmement sinistre, extrêmement triste. En réalité, nous nous référons à cette tradition du fils de la veuve parce que Hiram Abi, Hiram le fils de la veuve, a été pour nous le fondateur de l'ordre maçonnique. Qu'en est-il? La Bible continue à nous instruire à cet égard. Hiram Abi arrive à Jérusalem et le roi Salomon lui demande, mettant à sa disposition 30 000 ouvriers, de construire un temple magnifique sur un emplacement élevé sur la colline de Morija. Hiram Abi se met au travail, groupe ses ouvriers en maîtres, compagnons et apprentis, trace les plans, donne les ordres et entreprend l'érection de ce temple qui doit être magnifique parmi les plus magnifiques. Les conditions dans lesquelles Hiram Abi est venu à disparaître forment très précisément une des légendes qui sont à la base d'une de nos initiations traditionnelles, légendes dont je dois m'abstenir de vous parler, non pas parce qu'elles ont un caractère honteux, mais parce que nous prétendons que l'initiation qui marque un cheminement vers la connaissance ne peut pas s'acquérir d'un seul coup. On n'est pas un initié à la façon dont on devient un membre du parti radical, du parti socialiste ou du parti communiste, c'est-à-dire en remplissant un bulletin d'adhésion et en payant sa carte. On devient un initié par un lent travail progressif qui s'effectue à travers des épreuves. Les grades qui sont conférés par notre ordre sont précisément la consécration des étapes franchies dans le chemin de l'initiation. Les différentes cérémonies initiatiques s'appuient à chaque degré sur une légende, et la légende de la mort d'Hiram constitue précisément une des étapes de l'initiation maçonnique. C'est la raison pour laquelle il serait vain que je vous en fasse le récit, car ce qui serait pour vous une simple historiette sans intérêt est en réalité quelque chose qui sert de substratum solide à une étape de notre initiation, et il est donc vain, inutile et superflu d'en déflorer le mystère, car ce mystère doit demeurer entier pour ceux qui précisément auront à subir ces initiations progressives. Donc, bornons-nous à constater qu'Hiram disparaît dans des conditions dramatiques et que le temple dont il a entrepris la construction demeure inachevé. C'est ce temple inachevé, construit sur ordre du roi Salomon, à la gloire de l'Éternel, que les francs-maçons de tous les temps et de tous les lieux s'attachent à terminer, sachant qu'ils passeront dans ce que nous appelons l'Orient éternel sans avoir parfait leur œuvre. Si nous allons plus près vers l'Antiquité grecque ou romaine, nous retrouvons trace de cette tradition architectonique dans les collégias, dans les groupes de constructeurs qui non seulement s'attachent à faire leur métier de la construction, mais s'attachent également à cultiver les arts, s'attachent également à répandre parmi eux la connaissance de toutes les sciences. Dans tous les collèges de constructeurs antiques, le maître réunit les compagnons et les apprentis dans la loge. Il leur enseigne la façon de mettre en œuvre les matériaux de la construction, mais il leur enseigne également, et dans toute la mesure de ses propres connaissances, la psychologie, la philosophie, la médecine et la totalité, en somme, de ce qu'un honnête homme de son époque pouvait détenir comme connaissance. Sous les invasions barbares, c'est à Byzance que va se réfugier cette tradition architectonique et cette tradition initiatique. Et elle reçoit alors très directement les influences chrétiennes d'une part, et les influences néo-pythagoriciennes et néo-platoniciennes d'autre part. Je vais très vite, afin d'être fidèle à ma promesse, d'aborder le domaine technique aussitôt que possible. Venons-en au Moyen-Âge. Sous le déferlement des hordes barbares, ce qui subsiste dans nos pays d'Europe et spécialement en France, de connaissances, de sciences, d'humanisme et d'humanité, va se réfugier dans les abbayes bénédictines. Et c'est précisément dans ces abbayes de moines bénédictins que les maçons opératifs de l'Antiquité vont trouver refuge. C'est la raison pour laquelle les bénédictins, présentement encore, se réclament d'une tradition de bâtisseurs qui est authentiquement la leur et dont ils sont authentiquement les dépositaires. Sous la protection des moines bénédictins, de nombreuses confréries laïques de bâtisseurs se groupent, sont encouragées, sont instruites et travaillent. Je veux venir immédiatement à une autre date fatidique dans l'histoire de la franc-maçonnerie, la première date fatidique après l'année 930 avant Jésus-Christ, construction du temple de Salomon, la date fatidique de 1118, dont vous avez immédiatement le souvenir qu'elle constitue la date à laquelle l'ordre du temple fut fondé à Jérusalem. Plongeons-nous, si vous le voulez bien, dans cette ambiance médiévale, sombre, obscure, un peu masochiste, un peu triste, si belle pourtant par sa littérature, par le réveil de la pensée philosophique qu'il manifeste, par le réveil de la poésie, par la très grande foi qui animait ses contemporains. Et souvenons-nous de ce qu'était la structure sociale de cette époque. Structure essentiellement chevaleresque. La puissance royale, dans aucun état d'Europe, n'était assez solide pour assurer l'administration, la protection et la défense de l'ensemble du territoire de l'État. Il fallait donc recourir à un système qui fut soigneusement mis au point, et qui fournit ses preuves, le système féodal. Tout autour des marches de l'Empire, et à l'intérieur même du territoire national, des suzerains fiefeux, à qui le roi reconnaissait de hauts pouvoirs administratifs et judiciaires, avaient pour mission d'assurer la sécurité de la parcelle de royaume qui leur était impartie, et spécialement d'assurer la sécurité des frontières. Ce système féodal engendrait tout naturellement et obligatoirement un système successoral qui permit de garder entre les mains d'un seul la propriété du fief intacte, de façon que, de père en fils et de fils en petit-fils, le fief, avec la mission qui s'y attachait, fut préservé, de façon que l'ordre instauré fut établi, et de façon que la sécurité du territoire, pour le plus grand bien de l'ensemble des ressortissants, fut assurée d'une façon permanente.